Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, faut-il avoir peur de la toute-puissance des géants d'Internet qui connaissent absolument tout de vous, Facebook, Google et les autres, qui compilent, vous allez comprendre pourquoi, vos données personnelles et vous tracent au quotidien. C'est désormais la loi du plus fort qui régit Internet et nous avec. Alors est-on sous surveillance? Est-ce une menace aussi pour la démocratie? Et comment échapper à cette société Big Brother? On en parle donc ce soir avec nos invités, en partenariat d'ailleurs avec Courrier International, qui y consacre son dernier hors-série, qui est absolument passionnant et qui s'appelle donc « Le coup d'État numérique ». Bonsoir, Annick Rivoire.
Bonsoir.
Vous êtes justement journaliste spécialiste du numérique à Courrier International et vous êtes là pour nous présenter aussi les articles que vous compilez dans ce Courrier International hors-série. Bonsoir Joël Toledano.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine et auteur de GAFA, Reprenons le pouvoir, sorti aux éditions Odile Jacob. Et puis Alexandre Lazareg est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat spécialiste en droit du numérique. Alors, j'ai commencé avec vous, Annick Rivoire, puisqu'on est en partenariat avec Courrier International. Ça s'intitule « Le coup d'État numérique », avec plusieurs articles de la presse étrangère qui sont très éclairants, qui vont tous plus ou moins dans le même sens. On a donné les clés, c'est ce qu'on lit dans les articles, de nos vies aux géants d'Internet qui ont littéralement pris le pouvoir. Alors ça fait peur, parce qu'on apprend évidemment plein de choses, et on apprend notamment comment aujourd'hui nos données personnelles et nos smartphones font que nous sommes en permanence pistés et surveiller. C'est ça la réalité ?
Oh oui, c'est clairement la réalité. Je pense qu'on en a de plus en plus conscience, même si on a plutôt tendance à ne pas vouloir trop savoir à quel point tout ce qu'on fait, depuis le réveil jusqu'au coucher, même le temps de sommeil,
oui.
Ce qu'on peut savoir, aujourd'hui on a appris le temps de sommeil d'Emmanuel Macron, par exemple, parce qu'il n'a pas activé le fait, enfin sur Telegram, il laisse cette, cette donnée accessible au grand public.
On peut connaître le temps de sommeil du président de la République.
Du président de la République, c'est lui qui a fait
en
sorte...
Mais on ne sait pas, nous, tout ça. On ne sait pas qu'on laisse nos données actives et que les géants d'Internet peuvent y avoir accès. Mais on va rentrer dans le détail. Je voudrais simplement partager d'abord ces quelques paroles de Français qu'a recueillies pour nous Marie-Baptiste Duhard sur leur rapport à cette surveillance et notamment à ces géants d'Internet. Écoutez.
Maintenant, on se rend compte de plus en plus qu'on a des pubs suggérées. Ce n'est pas forcément des choses qu'on a cherchées sur Google. C'est des choses qui apparaissent d'un coup, dont j'ai juste parlé à voix haute.
Là où je trouverais ça en effet un peu plus gênant, c'est si l'on surveillait pour qui je vais voter et ce que je pense de certaines personnes, oui.
Qu'on utilise nos datas, ce que moi j'ai envie d'acheter, de faire pendant mes vacances ou quoi, ça m'embête plus. Ouais.
Quand on y pense, ça peut être assez angoissant de savoir qu'on a vraiment toutes nos données qui sont récoltées dans une base. Si c'est des données de savoir si je suis une fille ou si j'aime bien manger du chocolat ou acheter un parapluie, ça me dérange pas forcément plus que ça. Non.
C'est pas quelque chose qui me soucie particulièrement. Je pars du principe que c'est des choses qui justement me font aussi plaisir si je vais voir ces sites. Donc en fait, après avoir des publicités derrière, c'est pas quelque chose qui me gêne plus que ça.
Non, je trouve ça normal. C'est gratuit, on a les produits, hein, voilà.
Voilà, c'est bien résumé ça, Joël Toledano. C'est gratuit, on est le produit. Il y a quand même, à travers ces paroles de français, une sorte de méconnaissance du niveau d'information que les GAFA détiennent sur nous.
Alors, je voudrais d'abord préciser, ce n'est pas les GAFA dont vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler de Google et de Facebook.
Oui.
Vous n'êtes pas du tout en train de parler...
Amazon aussi.
Non, les données... les données, elles peuvent servir à mieux cibler ce que vous allez acheter,
oui.
Mais ce n'est pas du tout le même métier, le même business, le business de la publicité ciblée. Donc, vous avez deux acteurs dont le modèle économique est fait sur de la publicité ciblée. C'est Google, c'est Facebook. Et par rapport à ça, vous pourrez aussi parler de Twitter, vous pourrez aussi parler d'un certain nombre d'autres acteurs. Ce sont ces acteurs-là pour lesquels la remarque de l'auditeur qu'on a entendu est pertinente. C'est quand il a dit
oui.
C'est gratuit.
C'est vrai.
Quand vous allez sur Amazon, c'est pas gratuit.
Oui, mais plus généralement, Amazon sait ce que vous cherchez sur son moteur de recherche, connaît votre panier moyen et donc votre niveau de revenu supposé, le moment de la journée où vous êtes le plus enclin à acheter. Ils ont des informations énormes sur qui nous sommes.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui savaient et depuis longtemps, vous avez des cartes de supermarché dans lesquelles, pour certains d'entre nous, il y a la consommation. Je pense que c'est très, très différent,
oui.
cette cette idée d'avoir un modèle économique qui est centré sur ce qu'on appelle l'attention, l'engagement,
oui.
Et qui conduit à ce moment-là à effectivement avoir des algorithmes et des systèmes qui veulent vous conserver le plus longtemps possible pour que vous consommiez le plus de publicité.
Oui.
Ça, c'est un modèle économique. Le modèle économique d'Amazon, on peut en parler aussi,
oui,
mais c'est pas le même.
Parler, on va en parler. Mais il y a quand même un problème à ce que ces GAFA, pardon de leur dire, mais détiennent autant d'informations pour nous, même si la finalité est différente. On comprend bien, une finalité commerciale, une finalité pour nous proposer des achats dans l'autre, mais ça pose un problème que quatre groupes privés détiennent autant d'informations sur autant de gens dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Alexandre Lazareg ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui ressort des propos qui ont été tenus par nos concitoyens, c'est que d'une certaine manière, ils disent « c'est pas très grave pour moi si on me propose des produits qui sont susceptibles de m'intéresser ». Car initialement, le traitement des données visait à faire du marketing ciblé. Et après tout, pourquoi pas si vous avez le produit qui est adapté à vos besoins. Mais peu à peu, on se rend compte que insidieusement, on trace les individus d'abord pour leur proposer des goûts de consommation, des
oui.
goûts. Mais peu à peu, ça devient une influence. On
oui.
provoque des choix. Et demain, ça peut être aussi des choix d'opinion.
Oui.
Mais ça l'est déjà, parce qu'il y a eu déjà tout un tas de scandales à ce sujet.
Et on va en parler. C'est un point capital. Comment ces informations que nous donnons à ces GAFA peuvent aussi avoir des incidences sur notre démocratie, sur les élections présidentielles aux États-Unis notamment, et puis sur la circulation de l'information, car ce sont ces GAFA aujourd'hui qui détiennent l'information. On en parle après la pause, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite, 19h30 du débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à la toute-puissance des géants d'Internet qui connaissent beaucoup, beaucoup de choses sur nous et aux dangers que ça peut induire, notamment pour notre démocratie. Alors, c'est une émission en partenariat avec Courrier International qui publie ce hors-série absolument passionnant sur ce sujet, intitulé « Le coup d'État numérique ». Et on est toujours avec Annick Rivoire, journaliste spécialiste du numérique à Courrier International. Je voudrais revenir avec vous sur cet article du New York Times. C'est une enquête. Une équipe a consacré une grande enquête sur la problématique de la surveillance et a en fait fait une expérience très simple en utilisant les caméras en direct accessibles sur Internet. Et en quelques heures, eh bien, les journalistes sont parvenus à suivre des milliers d'Américains de façon très très précise. À quelle heure telle personne arrive au travail, avec qui il prend un café, à quelle heure il quitte le bureau, avec un outil de reconnaissance faciale développé d'ailleurs par Amazon, on peut identifier l'identité des personnes que l'on suit. C'est vertigineux.
Ouais, complètement. Et là, en l'occurrence, ils ont retrouvé un des Américains qui se promène autour de ce parc où ils ont...
Ils l'ont identifié, ils l'ont contacté.
Ils l'ont dit, bon voilà, on vous a reconnu. Est-ce que vous voulez bien faire partie de notre enquête ? Et il a été évidemment extrêmement bluffé, puisque sur les images, on ne le voit que de côté.
Ouais.
Et
la reconnaissance
malgré
faciale,
tout, la reconnaissance
a réussi à l'identifier. Alors, ce sont des réseaux de caméras installés depuis longtemps par des entreprises ou des municipalités. Il y en a partout dans le monde qui sont en libre accès sur Internet et qui, sans le savoir, ont créé d'une certaine manière un réseau de surveillance de masse qui échappe à tout contrôle. Est-ce que vous connaissiez cette problématique, Joël Toledano ?
Je dois vous avouer que je l'ai lu hier et donc ça m'a beaucoup intéressé. Cela étant, ça n'échappe pas tout à fait à tout contrôle. Par exemple, sur ce sujet-là, la CNIL a posé un certain nombre de règles. Donc après, ça dépend dans quel monde on vit et comment on accepte ou pas que ce genre de choses soit possible, soit consultable, combien de temps on conserve les données, etc.
Oui,
etc. Donc c'est bien la différence entre les potentialités du numérique qui sont faramineuses, à certains égards, et ce qu'on en fait, comment c'est régulé, et est-ce qu'on laisse... ce monde est évolué au fil de l'économie.
C'est bien que la CNIL mette des garde-fous, mais quand même, le système est là. Ça veut dire que n'importe qui, avec un petit peu de talent de recherche sur Internet, peut aller se balader ici ou là, regarder ce que font tel ou tel et les identifier grâce à ce système de reconnaissance faciale. Je trouve ça, Alexandre Lazareg, vous êtes avocat spécialiste en droit numérique, assez inquiétant quand même.
Inquiétant, mais il faut bien prendre acte que les pouvoirs publics, et même au niveau européen, ont pris un certain nombre de mesures depuis un certain nombre d'années. Il y a une véritable prise de conscience du législateur sur cet enjeu.
Mais on n'a pas toujours un coup de retard quand même ?
Je dirais d'abord qu'on a une législation qui n'est pas spécialement appliquée par l'ensemble des acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, enfin les autorités publiques et puis aussi les entreprises. Donc on est encore dans un travail de pédagogique où il faut que chacun prenne sa part d'une certaine manière, parce que la réalité c'est que les individus, les citoyens dont vous parliez qui sont surveillés, ils ont des droits. Mais encore faut-il qu'ils les exercent et qu'ils sachent qu'ils les ont. Parce qu'en réalité, ils ont tout à fait le droit de savoir qui détient ces données, c'est qui les filme, l'identité de chacun, demander d'être effacé, de s'opposer à ça. Ça, c'est des droits qui sont là, qui sont disponibles. Parce et les gens doivent le savoir.
Oui, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Joël Toledano. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur émérite. Il y a un marché de la donnée. Il y a un marché de la donnée qui est, je regardais les chiffres, estimé par le World Economic Forum, à 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire que nos données qui sont collectées par les géants du net, Facebook, Google et les autres, sont ensuite revendues.
Alors je vais vous faire une confidence, c'est pas une confidence d'ailleurs, ils les revendent absolument pas parce que s'ils les revendaient, ça perdrait de leur valeur.
Donc ils les gardent pour eux.
Ils les vendent habillés, si je puis dire. Quand vous voulez aller faire de la publicité, enfin vous, n'importe qui, une entreprise,
c'est
sur ciblé, ils s'adressent à Facebook. Et à ce moment-là, c'est Facebook qui cherche à vous vendre.
Donc on passe par le canal Facebook pour faire la publicité.
Sinon, si c'était vendu, ils auraient perdu toute leur valeur et ils ne pourraient plus en faire cette exclusivité qu'il y a. Et c'est bien l'un des problèmes, c'est que le système est tel que ces acteurs sont complètement oligopolistiques, monopolistiques, et qu'il n'y a plus personne autour pour leur faire de la concurrence et pour rendre ce genre de problématique un peu différente de ce qui est en train de se passer.
Mais c'est insensé quand même qu'on ait donné tant de pouvoir à si peu d'entreprises privées, qui plus est. Ils ont le pouvoir d'influencer les masses aujourd'hui quand même avec ces données.
On ne leur a pas donné, ils l'ont pris.
Pardon, ils l'ont pris. C'est vrai, vous avez raison. Mais on les a laissés prendre. Je regardais Facebook, capitalisation boursière, 735 milliards de dollars. Amazon, 1600 milliards de dollars. Je crois que c'est la plus grande capitalisation boursière au monde. Après 1000 milliards pour Google. Et Apple, quasiment 2000 milliards de dollars. Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et c'est 37 millions de Français. 37 millions de Français, c'est plus de la moitié de notre population.
Et c'est un modèle économique qui fonctionne sur le triptyque données, publicité ciblée et réseaux sociaux.
Oui.
D'accord. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre comme un modèle économique, c'est-à-dire que si on veut leur reprendre le pouvoir qu'ils ont pris pour eux-mêmes, il faut regarder le modèle économique et s'attaquer à ce modèle économique, aux algorithmes qui sont derrière, parce que ces algorithmes sont là pour vous faire rester le maximum de temps. Et ça signifie une polarisation des avis, de l'agressivité et tout un certain nombre de choses que je crois beaucoup de gens connaissent maintenant.
Alors Renaud Perret est avec nous par téléphone. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous avez 39 ans, vous êtes informaticien et vous dites, moi j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux il y a déjà quelques temps, je crois que c'était il y a 5 ans, en 2016, parce que vous en aviez marre d'avoir le sentiment, à raison d'ailleurs, d'être surveillé en permanence, c'est cela ?
Oui, c'est ça. Effectivement, je travaille un petit peu dans le domaine, donc j'ai voulu reprendre la main sur mes données, et c'est ce que j'écoutais de vos intervenants à l'instant. Et effectivement, les publicités ciblées et le temps, on va dire le temps de cerveau utilisé par les réseaux sociaux m'ont fait dire qu'à un moment donné, c'était pas la vraie vie et qu'il fallait que je retourne dans la vie réelle, on va dire.
Comment vous avez fait pour reprendre le contrôle de vos données et est-ce que c'est possible ?
Alors, c'est possible, oui et non. Alors, pour reprendre le contrôle de mes données, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai supprimé tous mes comptes, que ça soit Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux. Google, j'ai pas encore réussi à m'en passer totalement. Et à chaque fois,
c'est pas facile de se passer de Google. Là, il y a un principe de réalité quand même.
Exactement.
Et d'un téléphone portable.
Je veux pas vivre dans une caverne non plus.
Ouais. Et d'un téléphone portable, c'est vrai, c'est compliqué de se passer d'un téléphone portable. Et vous avez réussi à reprendre le contrôle de votre vie en quelque sorte et d'être maître de vos données. Et d'ailleurs, est-ce que vous arrivez à le faire sans être trop pénalisé dans votre quotidien ?
Alors oui, ça demande un petit peu de recherche et un petit peu de non-facilitation. Récupérer ces données, oui, parce qu'effectivement la CNIL nous permet de supprimer entièrement nos données, données à un GAFA ou autre d'ailleurs. Oui. Et derrière, ça m'a demandé du temps. Alors étant de la partie, c'est quand même plus simple pour un informaticien,
oui.
Mais d'utiliser un hébergeur français, d'utiliser des logiciels open source, ça permet quand même de récupérer.
On comprend, c'est pas si simple quand même en vous écoutant. Merci Renaud Perret pour ce témoignage. Merci d'avoir passé quelques instants avec nous. Avant de marquer une nouvelle pause, Alexandre Lazareg, avocat spécialiste en droit du numérique, j'ai une question très précise. Est-il vrai que nos iPhones, pour citer la marque à la pomme et qui est la plus répandue et qui détient une forme de monopole avec Samsung, est-il vrai que l'appareil nous écoute?
En tout cas, ils ont été sanctionnés et ils ont été mis en garde par les autorités, que ce soit au niveau européen et national, parce qu'ils ont tracé les individus, parce qu'ils les ont enregistrés pour améliorer, par exemple, leurs applications qui consistent à utiliser les voies connectées, vous savez.
Oui.
Donc, tout à fait, nous sommes absolument pistés, tracés. Et pour revenir sur les propos qui ont été tenus par l'informaticien, je voudrais dire que je continue à croire et je suis convaincu qu'il est tout à fait possible d'utiliser l'ensemble de ces outils si on a parfaitement conscience de ce qu'on laisse sur Internet. Il faut simplement avoir un peu de recul et savoir qu'on peut être tracé et, je dirais, prendre un sens, avoir utilisé ces outils avec le sens de la mesure, ne pas laisser sa vie privée ouverte à tous,
oui.
Et avoir conscience qu'il y a des gens qui nous regardent.
Pas si facile, mais on entend ce que vous dites. On marque une pause et puis dans un instant, on parlera aussi du rôle de ces GAFA sur la maîtrise et le contrôle des informations. C'est important, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
À 19h40, on poursuit donc le débat du Club des Idées. Effectivement, je voudrais qu'on s'intéresse à ces GAFA et au rôle qu'ils ont pour nos démocraties et à la manière dont ils détiennent aussi le pouvoir sur l'information. Pourquoi sur l'information? Parce que c'est sur ces réseaux, sur Facebook notamment, que se fait l'information partout dans le monde. Voilà, il y a la presse écrite, il y a les télévisions, mais il y a aussi les réseaux sociaux qui sont un vecteur d'information très très important. C'est d'ailleurs ce que vous montrez dans un certain nombre d'articles que vous publiez. Anne Écrivoire, vous êtes journaliste spécialiste du numérique à Courrier International. Ils ont vraiment la main sur l'information et ils peuvent ici censurer ou ici limiter l'accès à certaines informations, Facebook notamment.
Oui, c'est pas eux qui ont la main, c'est les utilisateurs qui partagent. Le truc, c'est que effectivement, c'est parce qu'ils partagent que l'information est la plus lue et se diffuse.
Oui, vous avez raison, mais il y a des exemples quand même. La manière dont Twitter a fermé le compte de Donald Trump et de ses milliers de femmes. Alors, par exemple, on pense qu'on veut de Donald Trump, mais on peut être pour ou contre, mais ça pose quand même un principe de démocratie très fort qu'une entreprise privée décide unilatéralement de censurer le compte d'un président américain, en l'occurrence, et de millions de fans. Non, mais ça ne vous pose pas de problème.
Pas du tout,
pose pas
c'est
de problème.
Une entreprise privée,
oui,
qui vous vend un service, qui a des conditions générales d'utilisation,
oui,
dont on a au début rigolé quand il s'agissait de Facebook, parce qu'ils ne laissaient pas voir les seins de femmes, quoi qu'il arrive. Mais c'est eux qui définissent ce qu'ils passent dans leurs tuyaux.
Oui.
On est en train de... D'ailleurs, ce n'est pas du tout le scandale qui a eu lieu aux États-Unis.
Oui.
Parce que pour tout le monde, effectivement, c'est une entreprise privée qui fonctionne, comme je vous le disais. Et à ce moment-là, ils ont le droit, non seulement ils ont le droit de faire, effectivement, de considérer qu'ils doivent l'arrêter, mais en plus, d'après la loi américaine, ils n'ont court absolument aucun risque.
Oui.
C'est leur
mais,
activité.
C'est
pas un service public.
Oui,
hein.
C'est vrai. Le problème, c'est qu'ils ont un poids dans
la démocratie, okay, dans l'information et
mais
dans le partage et dans la conversation mondiale.
Mais ça, c'est le sujet.
Qui est devenu tellement énorme que c'est absolument incroyable. Alors, on a réclamé à Facebook, Twitter, etc., et notamment pendant la campagne des élections américaines, qu'ils contrôlent, qu'ils limitent, qu'ils modèrent, qu'ils empêchent les fake news, donc les fausses informations, parce qu'il y en a eu quand même tout un tas.
Oui.
Et en fait, aujourd'hui qu'ils ont arrêté un président américain et qu'ils ont coupé le compte, effectivement, il y a un paradoxe, c'est qu'on ne peut pas leur reprocher complètement de l'avoir fait, mais ça montre à quel point ils sont surpuissants.
Ça pose la question du contrôle de l'information. Laisser une entreprise privée l'arbitrage du contrôle de l'information sur tel ou tel. Alors, j'entends que c'est une entreprise privée, mais ils ont une responsabilité éthique et sociétale quand même, à partir du moment où ils ont 2 milliards de clients dans le monde. Non,
mais non, pas du tout. Ils ont une responsabilité devant leurs actionnaires. Éthique et sociétale, pardon, mais vous êtes en train de plaquer des idées qui sont plutôt des idées qu'on entend, mais qui ne correspondent pas à ce que... Ils ont une responsabilité par rapport à leurs actionnaires, Ils ont comme responsabilité, effectivement, qu'il n'y ait pas des catastrophes qui se passent à cause d'eux.
Oui.
Et donc,
mais par exemple, ce qui s'est passé en Australie, le jour où Facebook a déclaré la guerre à l'Australie, en représailles au projet de loi obligeant les GAFA à rémunérer les médias, Facebook a bloqué tous les contenus d'information dans le pays. Ça pose quand même un problème, ça, non ? Non ?
Bien sûr que ça pose un problème, mais ça pose le problème qu'enfin on voit qui est effectivement du pouvoir qu'ont ces entreprises qui, pour l'instant, ne sont pas régulées et qui font effectivement ce qui est le plus intéressant pour eux. Et Facebook, pardon, mais in fine, a quand même largement obtenu ce qu'il voulait de l'Australie, c'est-à-dire qu'il a négocié avec qui il voulait et pas avec tout le monde.
Alexandre Lazarek, votre position ?
Quand on est journaliste, quand on est un organe de presse, y compris privé, on a des devoirs. Et la confusion qui se pose ici, c'est que ces réseaux sociaux, qui sont des vecteurs d'information, se sont présentés comme des boîtes aux lettres. Elles estimaient qu'elles n'étaient pas des directeurs de rédaction, de publication. Ouais. Elles estimaient simplement qu'elles diffusaient des informations qui étaient transmises par des tiers. Or, c'est tout à fait inexact, parce qu'ils utilisent des algorithmes qui influencent les utilisateurs. Il y a une hiérarchie des informations, il y a des choix éditoriaux qui sont faits. Or, ils ont essayé jusqu'à présent, en tout cas, d'échapper à leurs obligations en tant qu'organe de presse. Et j'invite véritablement le législateur à les qualifier d'organe de presse, de directeur de publication et de les soumettre à des obligations qui relèvent du droit de la presse, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent.
Il y a quand même un problème de liberté d'expression qui se pose et de contrôle de l'information avec ces géants du net.
Il y a un problème de régulation globale.
Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils sont privés, ils en réfèrent qu'à leurs actionnaires. Mais ça pose un problème de...
Ça pose un problème qu'il faut régler par rapport au cadre législatif dans lequel ils sont, si vous voulez. Ce que vient de raconter mon voisin, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, ils, comme d'ailleurs chez nous largement, ils sont, au sens de la loi, irresponsables. Et ils ont le droit, par contre, d'intervenir dans les contenus à partir du moment où ils sont supposés agir dans le bon sens. Donc il y a un problème de législation qu'il faut faire évoluer. Mais dans le cadre actuel, ça va.
On avance. Il y a autre chose qui est soulevée par ce numéro et les articles que vous présentez dans Courrier International, Annick Rivoire. L'exemple de ce qui s'est passé en mars 2018, par exemple, le New York Times révélait que Facebook avait laissé l'entreprise Cambridge Analytica, on en avait beaucoup parlé, siphonner sans autorisation les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs du réseau social, avec pour finalité le fait que ces informations auraient servi à influencer le vote en faveur de Donald Trump et en faveur du Brexit et peut-être d'autres élections à travers le monde. Là aussi, ça pose un problème de stabilité de nos démocraties.
Oui, complètement. C'est comme l'analyse de Christchurch où on voit que l'homme qui a commis ce massacre en Nouvelle-Zélande, en fait, c'est informé pas sur des réseaux complètement radicaux, extrémistes et un petit peu en dehors des clous, mais sur YouTube et sur Facebook. Mmh. Et comment YouTube, en fait, avec ses algorithmes de recommandation, vous enferme dans une bulle. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance et l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'on vous indique des contenus qui vont aller dans le sens qui vont au clash, qui vont parce que évidemment le clash et tout ce qui est non démocratique, ça marche.
Donc il y a un jeu très cynique, Joël Toledano, de la part des GAFA et de Facebook sur ce point précis.
Bien sûr, mais attendez, Facebook depuis le début. Quand Facebook a été créé, Mark Zuckerberg l'a créé comme devant respecter le secret, justement, de nos données personnelles, parce qu'il a sorti comme ça un concurrent.
Oui.
Donc, et puis, ça a évolué progressivement au gré de ce qui était possible de faire avec la publicité ciblée, de ses intérêts, etc. Donc, bien sûr que c'est cynique.
Bon, j'ai pas vu le temps passer. Il nous reste 3 secondes et demie. Je voudrais simplement, parce que c'est absolument passionnant, on pourrait y passer la soirée, évidemment. Je voudrais simplement que vous nous donniez en 3 secondes les bonnes techniques pour éviter de livrer trop de données personnelles à ces géants du net.
Eh bien, utiliser les outils qui sont disponibles sur le plan juridique, regarder consentir simplement à transmettre des informations que l'on a choisies, ne pas aveuglément cliquer sur tous les numéros pour accéder au site internet.
Vous voulez dire qu'il va falloir lire à chaque fois les 40 pages de... Hein, c'est ça? Mais,
les 40 pages, non, parce que figurez-vous qu'il y a une nouvelle recommandation de la CNIL qui indique que, de manière tout à fait aisée et accessible, on doit pouvoir connaître ses droits à la première interface, et on va voir comment les Français se débrouillent avec ça.
Vous avez raison
comment
de souligner.
Comment ça se traduit de, sur nos écrans, d'ailleurs, bien. D'abord.
Merci à tous les trois, et je rappelle ce numéro qui est disponible dans les kiosques, Courrier International hors série pour le mois d'avril et le mois de mai, le coup d'état numérique, voilà. Allez dans les bonnes librairies pour vous le procurer. Merci à tous les trois. 19h50, dans quelques secondes, les archives. On reviendra sur le jour, tiens, où Jacques Chirac a été élu à la mairie de Paris. 77, à tout de suite.